Lorsqu'on lit un bon polar, il y a généralement un moment vers le milieu du livre où on est dans la confusion la plus totale. Ce qu'on pensait évident n'est finalement plus évident. Le cours des choses qui semblait tellement probable prend brusquement une autre tournure. Mais dans un bon polar, on arrive à la fin du livre et là tout devient clair. Tout a du sens. Alors il y a peut-être des détails qui continuent à nous échapper, mais on comprend brusquement tous ces indices qui avaient semblé un peu dans tous les sens ou qui avaient peut-être paru des détails sans intérêt. L'auteur boucle la boucle. Et si on relit l'ensemble, on verra un fil conducteur cohérent du début à la fin. Dans un bon polar, dans un mauvais, à la fin on comprend toujours rien. Mais dans un bon, c'est comme ça. Nous avons abordé il y a quelques semaines maintenant le début de la grande section qui va des chapitres 9 à 11 de cette lettre aux Romains, mentionnée déjà par Anne-Sophie, une section dans laquelle l'apôtre Paul parle du rôle des peuples juifs et non-juifs dans les projets de Dieu. Il faut reconnaître que ce n'est pas une section très facile de cette lettre, mais elle est très riche en même temps. Nous avons vu il y a quelques dimanches donc le chapitre 9 ensemble, et nous avons constaté combien l'apôtre Paul est rempli de tristesse en faisant ce constat que bon nombre de ses compatriotes, juifs, comme lui, rejettent le message chrétien. Et parallèlement, il observe que beaucoup de non-juifs placent leur foi en Jésus-Christ. Alors ça touche beaucoup l'apôtre Paul, juif lui-même. Il rappelle dans ce chapitre 9, alors pas mal de choses, mais il rappelle notamment que chacun, juif ou non-juif, est responsable, quelle que soit son origine, de son accueil de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Certains la reçoivent avec joie, d'autres la rejettent de diverses manières et s'endurcissent. Ce matin, nous allons aborder la fin du chapitre 11, qui est la conclusion de cette section de la lettre. Et je vous invite à lire le texte à la page 1279 des Bibles bleues, si vous souhaitez le suivre dans ces Bibles qui sont sur les bancs. Romains chapitre 11, donc, à partir du verset 25, page 1279 dans les Bibles bleues. Romains 11, 25. « En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion, et il écartera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que vous avez maintenant obtenu grâce à cause de leur désobéissance, de même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir eux aussi grâce à cause de la grâce qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables! En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. On va voir, je l'espère, dans ce texte, que l'idée forte, l'idée centrale, c'est que Dieu boucle la boucle. Un peu comme dans l'exemple de la fin du polar. Il n'a jamais perdu le fil de l'histoire, de son plan de salut pour Israël, comme pour les nations en général. La question de départ, en quelque sorte, de ce texte, si on veut, la question sous-jacente, c'est est-ce que Dieu sait ce qu'il fait? Est-ce que ses projets ont un sens et un cap? Et on va voir la réponse que nous apporte l'apôtre Paul. On va le voir en deux temps. D'abord une information exclusive et ensuite un appel à l'émerveillement. Une information exclusive tout d'abord. Alors je fais partie, comme pas mal d'autres, je pense, de ceux qui suivent beaucoup les infos. Un peu trop parfois, j'essaye de me soigner en ce moment. Mais en particulier, je suis réveillé chaque matin par la douce mélodie de France Info. Alors de temps en temps, France Info fait du journalisme d'investigation. Et lorsqu'ils ont un scoop, lorsqu'ils ont une information exclusive, ils appellent ça une information France Info. Et c'est toujours dit avec un peu de fierté dans la voix. Eh bien, au début de notre passage, Paul va annoncer en quelque sorte une information exclusive, une information apôtre Paul. C'est le sens, en fait, du mot mystère ici, au verset 25. Dans le langage de l'époque, un mystère, en tout cas dans ce type de contexte, c'était un secret qui était rendu public, un secret qui était révélé. Et c'est ce que Paul va faire au verset 25 et 26. Il va révéler un scoop. Alors, comment l'a-t-il reçu, ce scoop ? Est-ce qu'il a reçu cette information directement par une révélation du Saint-Esprit ? C'est tout à fait possible, voire probable. Est-ce que c'est le résultat, toujours inspiré par l'Esprit, de son étude attentive et poussée de la Bible ? C'est probable également, et l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Difficile d'être sûr, mais en tout cas, il va donc révéler une information exclusive. Verset 25. « En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère. » Alors, quel est-il ce mystère ? Versets 25 et 26. Le voici. « Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. » Le scoop de Paul, c'est que l'endurcissement d'Israël, ce phénomène qu'il constate, selon lequel très peu de Juifs reçoivent le message qui leur avait été destiné en premier, eh bien cet endurcissement n'est pas définitif. Il est limité dans le temps, jusqu'à ce que l'ensemble des non-Juifs, dit-il, soit entré, verset 25. Le jour viendra, et c'est le scoop, où Dieu ouvrira grand les portes du salut à nouveau pour le peuple d'Israël. Alors, ça suscite pas mal de questions, c'est un texte pas très facile. Il y a des choses qu'on va devoir décrypter un petit peu. D'abord, que veut dire Paul lorsqu'il évoque le fait que l'ensemble des non-juifs sera rentré ? En fait, ce que le texte dit très littéralement, dans le texte original, c'est que la plénitude des non-juifs sera entrée. Autrement dit, le nombre prévu par Dieu des non-juifs aura accueilli l'Évangile. Donc, il ne s'agit pas de dire que tous les non-juifs auront cru. Loin de là, sans doute, mais tous ceux que Dieu appelle à lui seront venus à lui. Et ainsi, poursuit Paul au verset suivant, tout Israël sera sauvé. Pour bien comprendre où Paul veut en venir, il faut voir comment il a commencé cette section, verset 25. Il annonce son scoop pour une raison précise, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Il veut remettre un petit peu à leur place, dans un sens... au moins certains de ses lecteurs. Depuis le début du chapitre 9, on voit que Paul s'adresse en majorité à un public non-juif. Pas exclusivement sans doute, mais en majorité. Et on le voit à de nombreuses indications dans le texte. Et il tient à mettre en garde ces chrétiens non-juifs contre une attitude de mépris envers les juifs. Il souligne donc l'importance d'Israël dans le plan de Dieu. Et dans le texte de ce matin, il ajoute que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il a encore des projets pour le peuple juif. Et c'est pour ça que Paul ajoute cette petite remarque à ses lecteurs non-juifs, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Au cas où les non-juifs étaient tentés d'avoir un complexe de supériorité ou de mépriser les juifs, en disant « Vous n'êtes plus le peuple de Dieu, c'est fini, Dieu vous a rejeté », des paroles que tragiquement trop de chrétiens ont dit au cours des siècles, eh bien Paul rappelle que Dieu a à cœur ce peuple, et qu'il ne l'a pas oublié. Verset 28, en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et c'est pour ça que Paul apporte son scoop. Alors on a vu, bien plus tôt dans la lettre, au chapitre 2, il a déjà remis à leur place les juifs présomptueux, ceux qui pensaient que simplement parce qu'ils étaient juifs, forcément ils allaient recevoir les bénédictions de Dieu, forcément ils étaient héritiers d'Abraham, etc. Il les a remis à leur place, chapitre 2. Et bien ici, il remet les non-juifs présomptueux à leur place. Et il leur dit, oui c'est vrai qu'il y a un endurcissement dans une grande partie de ce peuple juif contre l'Évangile, pas la totalité bien sûr, hein, Paul lui-même est juif, mais une grande partie, mais seulement, dit-il, jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Et ainsi, par quoi dans le contexte ici il faut comprendre, et alors, tout Israël sera sauvé. Il y a donc une étape du plan de Dieu où de nombreux non-juifs se tournent vers Jésus, tandis que peu de juifs se tournent vers lui. Sans doute sommes-nous encore à cette étape aujourd'hui, mais le jour viendra où les choses changeront. L'œuvre parmi les païens sera globalement achevée. à quoi ça ressemblera dans la pratique, très difficile à dire. Paul ne nous donne pas tous les détails, il ne les avait sans doute pas d'ailleurs. Seul Dieu le sait. L'œuvre parmi les païens sera globalement achevée et de nombreux juifs recevront le salut par la foi en Jésus-Christ, pas parce qu'ils sont juifs, mais par la foi en Jésus-Christ, au nom des promesses faites à Israël il y a si longtemps par les prophètes. Versets 26-27, Paul cite cette promesse par exemple, « Le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. » Paul cite ce texte, il aurait pu en citer bien d'autres. Dieu a fait des promesses à Israël. Et ces promesses, rappelle Paul au verset 29, sont irrévocables. Elles trouvent leur accomplissement dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Mais en faisant ces promesses, Dieu n'a pas perdu de vue le peuple qu'il a appelé en premier. Et ce que nous dit Paul ici, c'est donc que Dieu boucle la boucle. Après avoir recueilli un grand nombre de non-juifs, Dieu, peut-être juste avant le retour de Jésus-Christ, qui sait, se révélera à de nombreux Israélites par la foi en Jésus-Christ. Une question se pose encore à ce sujet. Que veut dire Paul lorsqu'il dit « tout Israël sera sauvé » ? Est-ce qu'il veut dire que chaque Israélite, sans exception, recevra le salut en Jésus-Christ ? Non, certainement pas. On a vu que la plénitude des nations, au verset 25, ça ne veut pas dire tous les non-juifs, mais tous ceux que Dieu avait prévu d'appeler. Eh bien, ici, on a certainement, de façon parallèle, une façon globale de parler du peuple, un peu comme quand on dit « toute la France suit les aventures de Thomas Pesquet ». Ou « le monde entier s'inquiète du résultat des élections présidentielles en France ». Ou « aujourd'hui, tous les jeunes sont sur Facebook ». Ce sont des généralisations, une façon globale de parler. On pourrait trouver plein d'exceptions à chacun de ces exemples. Mais c'est une façon globale de parler. Eh bien, Paul nous dit ici que globalement, Israël, peut-être même massivement, se tournera vers son Seigneur, son Messie. Après avoir permis, suite à l'endurcissement d'Israël, à de nombreux non-juifs de venir à Jésus, Dieu va boucler la boucle. De nombreux Israélites viendront à leur tour à Jésus. Voilà le scoop que Paul nous révèle à la fin de ce chapitre 11. Alors on peut se demander, bien sûr, en quoi ce texte nous concerne, nous qui sommes au 21e siècle, globalement pour la majorité d'entre nous non-juifs, en quelle mesure sommes-nous concernés ? D'abord, on peut espérer que nous sommes moins tentés que les premiers lecteurs de Paul, non-juifs, par une attitude de mépris envers les juifs. On peut l'espérer. Si jamais c'était le cas, si nous étions tentés par ce type d'attitude, par l'idée que ce peuple n'a plus aucune importance aux yeux de Dieu, nous devons écouter ce que dit l'apôtre Paul ici. Dieu n'a pas perdu de vue le peuple qu'il a appelé en premier. Maintenant, je pense qu'on peut faire une application plus large pour nous qui lisons ce texte aujourd'hui. Une chose qui me frappe, c'est que le plan de Dieu est toujours bien plus grand que notre situation propre. C'est pas parce que les non-juifs sont accueillis à bras ouverts, écrit Paul, que Dieu n'aurait plus de projet pour les juifs. C'est vrai, je crois même au niveau individuel. Eh bien, de même que Dieu tient ma vie entre ses mains, il a des projets pour moi, en Jésus-Christ. Mais malheur à moi si je présume de dire à la place de Dieu comment il va agir dans la vie des autres. On peut penser ici à cette scène, à la fin de l'évangile de Jean, après la résurrection de Jésus, tout à la fin de cet évangile, quand Pierre demande à Jésus à propos de Jean, « Et lui, Jean, que va-t-il lui arriver ?» Et Jésus lui répond, en gros, je paraphrase un peu, « Ça me regarde. Ne t'en préoccupe pas. Mais toi, suis-moi. » Et je pense que c'est ce que Dieu nous dit à chacun d'entre nous qui sommes chrétiens, quand nous sommes tentés de nous inquiéter ou de présumer des projets de Dieu pour les autres. Nos enfants peut-être, nos ados, nos parents, au sens large du terme, nos amis, nos collègues. Bien sûr que nous devons être témoins auprès d'eux, bien sûr. Mais il me semble que Dieu, indirectement, nous rappelle ici, ne t'inquiète pas, je gère. Mais toi, sois fidèle. Enfin, une dernière application plus directe de ce texte que je relève, c'est que Dieu n'oublie jamais ses promesses, même quand elles semblent enfouies dans l'oubli après des siècles et des siècles, même si elles ne semblent pas correspondre à la réalité que nous voyons de nos yeux aujourd'hui. Pendant des siècles, par exemple, au temps de l'Ancien Testament, Dieu a annoncé par les prophètes à plusieurs reprises qu'un jour il ouvrirait grand la voie du salut aux non-juifs, aux nations. Plusieurs prophètes l'ont annoncé. Ça semblait très improbable à l'époque de l'alliance entre Dieu et Israël. Mais Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Il a ouvert grand les portes aux nations. Et aujourd'hui, une foule immense de peuples de toutes les nations a reconnu en Jésus-Christ son Sauveur et son Seigneur. Et donc, croyons-le quand il nous dit qu'il va boucler la boucle et tenir aussi ses promesses à l'égard du peuple juif. Et croyons toutes les promesses qu'il nous dévoile dans les Écritures et qui, comme le dit Paul dans une de ses lettres, trouvent toutes leur oui et leur amen en Jésus-Christ lui-même. Maintenant, plus brièvement, passons au deuxième point, un appel à l'émerveillement. L'être humain a été créé pour l'adoration. C'est quelque chose que nous avons en nous, ce profond désir d'exaltation, de nous émerveiller face à ce qui est supérieur à nous, ce qui nous dépasse, ce qui nous émeut au plus profond. Je donnerai deux exemples de cela qui toucheront peut-être des publics un peu différents, qui sait, ou peut-être les mêmes. D'abord, pour ceux qui aiment le sport, pensons par exemple à un but marqué dans un match d'une grande importance. La joie collective, les cris de joie, les gens qui sautent dans tous les sens, qui se prennent dans les bras, qui sont en larmes même. Lors du tristement célèbre match retour Barcelone-PSG, que j'ai vu avec quelques-uns ici présents, un petit séisme a été mesuré. Alors, bon, je ne pense pas qu'il était perceptible directement, mais les sismographes ont perçu un petit séisme au moment du sixième but. Tellement, je ne rigole pas, tellement de gens sautaient dans tous les sens. Comment peut-on expliquer une telle ferveur autour d'un simple match sportif ? Eh bien, il me semble que c'est un reflet indirect de cette capacité humaine à se rassembler dans une exaltation collective. Autre exemple, qui parlera peut-être plus à d'autres, un concert symphonique magnifique. Une œuvre magistrale de Bach, de Beethoven, des artistes virtuoses, exceptionnels, et un public saisi d'émotion, captivé par la beauté de la musique, qui se lève comme un seul homme pour applaudir pendant de longues minutes. L'homme a été créé pour s'émerveiller. Et si nous avons cette capacité en nous, c'est parce que nous avons été créés pour adorer celui qui est la source de tout ce qui est bien, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est puissant, de tout ce qui est juste. En lisant les versets 33 à 36 de notre texte, il ne faudrait pas penser que Paul est en train de nous livrer une analyse posée, qu'il faudrait calmement analyser et interpréter. Il y a énormément d'émotions dans ces lignes. Paul s'émerveille, il interrompt même en quelque sorte le fil de sa pensée pour s'émerveiller devant le Seigneur. Et il est frappant de voir ce qui suscite cet émerveillement chez Paul. Pas un chant de louange dont le refrain serait repris 70 fois cette fois, pas un miracle qui aurait été accompli de façon spectaculaire sous ses yeux, mais Paul s'émerveille en considérant l'extraordinaire sagesse et richesse du plan de Dieu. Verset 33, « Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu ?» Paul vient de passer en revue du chapitre 9 au chapitre 11 le dévoilement progressif de ce grand projet du salut de Dieu, depuis Abraham et les patriarches jusqu'à Jésus-Christ, en passant par Moïse et les prophètes. Projet pour Israël, projet pour le monde entier. Et même si ce n'est pas explicite ici, en pensant à tout cela, comment imaginer que Paul ne pense pas aussi à la croix, qui est au cœur de ce projet et dont il a abondamment parlé dans cette lettre aux Romains. Cette croix où Dieu a manifesté sa puissance dans la faiblesse, Stéphane nous l'a rappelé plus tôt, où il a fait jaillir l'amour de la violence et de la haine. Cette croix où Dieu a pris le diable à son propre piège, en lui ôtant tout motif d'accusation contre l'homme, en allant connaître la mort dans la personne de Jésus-Christ pour mieux la détruire de l'intérieur, en prenant sur lui la condamnation du péché pour que nous en soyons libérés. Qui aurait pu prévoir cela ? Qui aurait pu imaginer une telle intervention de Dieu dans l'histoire ? Et quand on voit comment Dieu avait tout prévu, comment il a toujours tout maîtrisé, comment il a toujours, non pas un ou deux, mais 10 000 milliards de temps d'avance sur nous et notre réflexion et nos projets, eh bien on ne peut que reconnaître avec Paul notre petitesse. Verset 33, deuxième partie du verset. « Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. » Et l'apôtre poursuit en citant Ésaïe et puis Job, qui eux aussi n'avaient pu que rester bouche bée devant la grandeur de Dieu. « Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller, verset 34? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? Et Paul conclut par ce résumé implacable. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Dieu est le maître de l'histoire. C'est bien de s'en rappeler un jour d'élection. Dieu est le maître de l'histoire. Il n'a jamais perdu le contrôle des événements. Même dans les périodes les plus sombres, jamais il n'a perdu de vue ses objectifs, sa vision d'un monde transformé un jour et renouvelé entièrement, sa vision du pardon offert librement à tous ceux qui le reçoivent. Il n'a pas non plus perdu de vue sa justice, sa colère contre le péché et sa juste condamnation de ceux qui ne reçoivent pas ce pardon offert en Christ sur qui la colère est tombée. Il est frappant de voir que, en considérant cette toute-puissance de Dieu, Paul ne se pose pas 10 000 questions philosophiques. Et pourtant, c'était un penseur, clairement. Si on lit cette lettre aux Romains, il y a guère de doute sur le fait que c'était un intello, si j'ose dire, Paul. Il n'hésitait pas à se poser des questions difficiles. Mais là, il arrête un peu ses questions et il s'émerveille. Il s'incline devant Dieu et son intelligence ici est un instrument pour la louange de Dieu. Et il l'adore, verset 36. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et il nous invite à nous émerveiller aussi. C'est bon de se souvenir que Paul ne vivait pas des temps faciles. Tout son ministère a été marqué par la difficulté, du début à la fin. Les temps étaient durs. Mais Paul n'a pas perdu de vue le sens de l'histoire, ni la souveraineté de Dieu. L'histoire des hommes est soumise à de multiples aléas, sans cesse changeantes, souvent inquiétantes. Aujourd'hui, nous pouvons nous demander tous, d'une façon ou d'une autre, quelles que soient nos préférences, ce qu'il adviendra de notre pays. Mais Dieu reste le même. Il sait ce qu'il fait. Et rien ni personne ne pourra s'opposer à ses projets. Et donc, face aux multiples incertitudes de notre temps, face à un monde qui, par certains aspects, semble de plus en plus hostile à notre foi, émerveillons-nous à nouveau devant Dieu. Et quoi de mieux pour ce faire que de se plonger à nouveau dans la Bible, pour mieux comprendre, derrière les aléas de ce monde, l'histoire, avec un grand H, l'histoire la plus vraie qui soit, celle d'un Créateur qui a décidé de sauver sa création des ténèbres, du mal et de la mort. L'histoire du plan de Dieu pour se réconcilier avec les hommes qui s'étaient détournés de lui. Pour ceux qui seront encore là, beaucoup j'espère, presque tous, à la rentrée de septembre, je vous conseille le cours Apollos, qui permet précisément de mieux cerner comment le salut de Dieu se déploie depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, depuis le début jusqu'à la fin de l'histoire. Nous adorons un Dieu qui est le maître de toutes choses. Et s'il est le maître de l'histoire, avec un grand H, il n'y a aucun doute qu'il est le maître de nos histoires à chacun. Et ça aussi, c'est bien de s'en rappeler. Il a déjà largement prouvé que rien ni personne ne pouvait arrêter ses plans lorsqu'il a déterminé d'aimer, de pardonner, de sauver ses enfants. Alors n'ayons plus peur de lui donner notre vie, de le suivre, parce que si notre vie est entre ses mains, nous savons qu'elle est entre les meilleures mains, et ce pour toujours. Amen.